Il y a quelques années, chaque fois que j'ai prêché, j'ai enlevé ma montre pour le mettre ici. Et une sœur d'un certain âge après, peut-être 5 ans de ministère dans cette église, me dit, « David, pourquoi est-ce que tu enlèves ta montre ?» Et j'ai dit, « c'est pour mettre là, comme ça je vois l'heure. » Mais ici, je n'ai pas de montre, mais il y a l'horloge. Si quelqu'un me demande, « David, pourquoi tu enlèves ton pull chaque fois ?» C'est parce que j'ai toujours chaud. Il y a quelques années, Brigitte et moi, nous étions invités chez un couple d'amis qui voulaient, c'était des amis, qui voulaient aller plus loin dans l'amitié et qui voulaient savoir un peu ce que nous croyons et ce qu'on faisait dans la vie. Et lors de ces soirées où on était souvent invités chez des amis non-chrétiens, on arrive, apéritif, on se met à table et puis au moment du fromage, vers 23h30, les gens commencent à poser des questions profondes, théologiques. Et à 23h30, la dernière chose à laquelle je pense, c'est répondre à des questions profondes. Mais je préfère aller au lit à 23h30, sinon avant. Mais ces gens-là ont commencé à poser des questions. Et puis en discutant avec eux, vers minuit, on leur a posé une question. Une question toute simple. Ces gens-là, à l'époque, avaient deux enfants. Noémie et Paul. Et au cours de la discussion, nous avons dit, « c'est intéressant, comment vous avez appris vos enfants, Noémie et Paul. Ce sont des noms bibliques. » Et la dame a dit, « oui, on le sait. » Donc on a dit, « mais pourquoi est-ce que vous avez choisi des noms bibliques ?» Et elle a répondu, « mais tu sais David, Brigitte, tu sais, dans l'Ancien Testament, il y a une belle histoire, Ruth et Noémie. Et nous aimons beaucoup cette histoire. Donc on a décidé d'appeler notre fille Noémie. » C'est rien, c'est mignon. En ce qui concerne Paul, eh bien, David, l'évangile selon saint Paul, c'est l'évangile que nous préférons dans le Nouveau Testament. Alors, dans ma tête, je me suis dit trois choses. Est-ce que je vais rire? Est-ce que je vais contredire? Ou est-ce que je vais réfléchir? Et je me suis dit, même si à l'intérieur de moi, j'avais envie de rire, je savais que ce n'était pas opportun de contredire, il y avait d'autres invités en plus d'ailleurs, et je me suis dit, mais je vais réfléchir. Et au cours de la conversation, je me suis dit, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais il y a quand même l'évangile selon Paul. Et l'évangile selon Paul se trouve dans plusieurs de ses épîtres. Et j'aimerais lire l'évangile selon Paul, juste un aspect ou une partie dans l'épître de Paul aux Galates. Premier chapitre. Alors, je vous invite à trouver Galates, chapitre 1. Et je vous rassure que je ne vais pas répéter le message de Guy de dimanche dernier. Je ne vais pas contredire le message de Guy de dimanche dernier. Il n'y avait rien à contredire. Je l'ai écouté sur Internet. Mais j'aimerais lire ces versets qui seront sur l'écran. Merci. Et qui vont rester sur l'écran. Et dans ces versets, nous avons ce que j'appellerai quatre aspects de l'évangile selon Paul. Je lis dans la version Colombe, qui est la version affichée au mur. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. À tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'évangile selon Paul. On a un autre résumé de l'évangile selon Paul dans 1 Corinthiens 15 et dans d'autres versets aussi, à droite et gauche dans ses écrits. Alors ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement souligner quatre aspects de l'évangile selon Paul, selon ces versets. Et le premier aspect, la mort de Jésus était volontaire. Rien de compliqué. Il s'est donné pour nos péchés. La mort de Jésus a été un choix délibéré, un choix, une décision volontaire. Paul le dit, les apôtres le disent, Jésus lui-même l'a dit. Jean chapitre 10, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Encore dans Jean 10, je donne ma vie et personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Sa mort était un choix volontaire. Rien dû au hasard. Il a même dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour nous. D'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, mais sur tous les monuments de guerre britanniques, en Grande-Bretagne et même en France, il y a un verset de la Bible affiché, gravé dans la pierre. Et le verset c'est Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour. » Point. Ils ne disent pas que de donner sa vie pour ses amis. Mais c'est un verset biblique cité parce que ceux qui se sont donnés, c'était eux qui se sont donnés, ils sont morts pour que nous ayons la vie. Et parfois, quand on se promène dans des cimetières de guerre, on voit des gens des épitaphes comme quoi il est mort pour que je vive. Il s'est sacrifié pour moi. Et ces épitaphes, on peut les prendre pour dire Jésus est mort pour que je puisse vivre. Il s'est donné volontairement, de tout cœur, pour moi. Première chose. La deuxième chose, c'est que la mort de Jésus a été substitutive. Alors, substitutive, c'est bien un mot qui se trouve dans le dictionnaire, et ça veut dire tout simplement qu'il est mort à la place d'un autre. On trouve le mot substitut dans plusieurs domaines aujourd'hui. Dans le domaine de la chimie, des mathématiques, du droit, le substitut du procureur de la République. Quelqu'un qui parle à la place du procureur de la République. Et Jésus, sa mort était substitutive, c'est-à-dire il est mort à la place de quelqu'un d'autre. Ou il est mort à la place de beaucoup de personnes. Il s'est donné en rançon pour tous, nous dit Marc chapitre 10. Donc Jésus nous a remplacés. On parle aussi de cette idée dans le domaine du sport. Les remplaçants sont sur le banc. Et à un moment donné, un vient sur le champ, sur le terrain de jeu, et quelqu'un est remplacé et il sort. Et Jésus nous a remplacés sur la croix. Cela est évoqué presque tous les dimanches matins pendant le culte. Quelqu'un prie en disant, Seigneur, tu es mort pour mes péchés, tu es mort à ma place. Et quand on a compris cela, on a compris l'essentiel. Nous avons entendu une lecture tout à l'heure de Ésaïe 53, un texte prophétique clé au sujet de la mort de Jésus, écrit 7 siècles avant la naissance de Jésus. Et je peux vous dire que dans la liturgie, dans les synagogues en France et dans le monde entier, il y a des textes à lire tous les jours par les Juifs qui se rendent à la synagogue. Mais un texte de l'Ancien Testament qui n'est jamais lu, Ésaïe, chapitre 52, à partir du verset 13, jusqu'à la fin d'Ésaïe 53. Ce n'est jamais lu. C'est omis, non pas oublié, mais omis de la liturgie juive. Et pour cause. Parce que ce texte explique, on ne peut plus clair, que Christ est mort pour nous. Que le Messie est venu et que le Messie est mort pour nos péchés. La semaine dernière, des Juifs messianiques à Londres, des Juifs qui croient au Messie, qui croient comme nous, ils avaient à cœur d'évangéliser les Juifs non-croyants. Et ils ont imprimé 6000 exemplaires d'Ésaïe 53 sous forme de rouleaux. Et ils les ont distribués dans les quartiers bien ciblés à Londres à des Juifs pour qu'ils puissent avoir le texte sous leurs yeux, sous forme de rouleaux qu'ils ouvrent, ils déroulent et ils pouvaient lire Ésaïe 53. Des Juifs messianiques qui ont à cœur que des Juifs non messianiques deviennent des Juifs messianiques. Des Juifs qui croient grâce à Ésaïe 53. Donc la mort de Jésus a été volontaire, la mort de Jésus a été substitutive, la mort de Jésus a été efficace. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Ailleurs, nous lisons, il est mort pour nos péchés. Il est mort, il a pris notre condamnation. Il est mort afin qu'on soit pardonné. Et ici, il est mort afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Ou dans une autre version, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Ou dans une autre version, il est mort afin de nous arracher à la perversité du temps présent. Jésus est mort afin de nous extraire du danger qui nous guettait, afin de nous éditoyer de l'océan dans lequel on était en train de se noyer. Opération sauvetage. Intervention réussie. Merci Seigneur. Nos fautes, nos péchés nous enfonçaient dans le mal et le Seigneur est venu nous sauver. Isaïe, ce prophète au premier chapitre, il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Je peux vous dire, j'étais chez le médecin l'autre jour, si le médecin m'avait dit, Monsieur Sutherland, j'ai une mauvaise nouvelle, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Si le médecin m'avait dit ça, soit je serais parti au courant, ou je me serais fait hospitaliser d'office tout de suite. Mais Isaïe dit, en parlant des hommes et des femmes et des enfants, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Nous sommes pécheurs. Nous avions besoin d'être libérés, arrachés au présent siècle qui dominait le monde. Nous avions besoin d'être sauvés, libérés, affranchis, émancipés. Vous connaissez tous MLF, le mouvement pour la libération de l'art. C'est quoi? J'oublie ce que le F signifie. Mais en tout cas, il y a aussi le MLP, mouvement pour la libération des perdus. Et nous faisons partie de ce mouvement-là. Nous étions perdus. Et Christ nous a libérés. Et le quatrième aspect de la mort de Jésus ou de l'évangile, selon Paul, se trouve aussi dans ce texte, et c'est au verset 1, parce que le quatrième aspect, là, il est question de la résurrection de Jésus. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si vous avez vu certains films concernant Jésus, tels que Jésus de Nazareth, tels que La plus grande histoire jamais contée, et d'autres, à la fin de certains de ces films, le film se termine avec Jésus sur la croix. Et puis, il y a le générique, la musique à la fin. Et dans d'autres films, le film se termine avec le tombeau vide, tel que Ben-Hur, tel que, si je ne me trompe pas, La Passion de Mel Gibson. Ça se termine avec le croix vide et le tombeau vide, parce que Jésus est ressuscité. Et nous devons toujours nous rappeler, Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il était enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Il est revenu vainqueur de la grande bataille. Le Seigneur Jésus a livré bataille sur la croix. Et il est revenu vainqueur de cette grande bataille. D'ailleurs, entre parenthèses, ce que je viens de dire, il est revenu vainqueur de la grande bataille, c'est la devise du régiment français le plus décoré de l'armée française. C'est des régiments qui s'appellent le régiment d'infanterie char marine, 18 citations, et leur devise, tout simplement, il est revenu vainqueur de la grande bataille. Mais Jésus, il a vraiment remporté la grande bataille. En mourant sur la croix, il a remporté la victoire sur le mal, sur le diable, sur tous les démons. L'évangile selon Paul. La mort de Jésus a été volontaire. La mort de Jésus a été substitutive.
la mort de Jésus a été efficace et la mort de Jésus n'a pas été définitive, on va dire. Provisoire, temporaire. 3 jours. Et après, il est ressuscité. Mon message est terminé. Mais je ne vais pas m'asseoir. Je vais vous lire une petite histoire qui est en lien étroit avec ce message et avec ce jour, le dimanche de Pâques. Tout commence un vendredi après-midi. Tu es en train de rentrer chez toi lorsque tu écoutes les infos à la radio. On dit que dans un petit village en Inde, 3 personnes viennent de mourir d'une grippe qu'on n'avait jamais vue auparavant. Tu ne prêtes pas vraiment attention à cet événement. Le lundi matin, lorsque tu te réveilles, la radio annonce que ce ne sont plus seulement 3 personnes, mais 30 000 qui sont mortes en Inde. Des chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé vont mener une enquête. Le mardi, cette maladie fait la une de tous les journaux. Il ne s'agit plus seulement de l'Inde, mais aussi du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Iran. Tout le monde parle de cette maladie en l'appelant l'influence mystérieuse. Et tout le monde se demande, mais comment est-ce qu'on va la contrôler? Alors une nouvelle surprend tout le monde. L'Europe ferme ses frontières. Il n'y a plus d'aller-retour entre l'Inde ou tout autre pays où cette maladie a été découverte. Lorsque le journaliste interroge une femme française, on apprend que son mari a attrapé cette maladie et il est en train de mourir de cette influence mystérieuse. C'est la panique en Europe. Les informations disent que si tu attrapes cette maladie, tu ne te rends pas compte. Mais après quelques jours de souffrance atroce, tu meurs. La Grande-Bretagne, qui n'était pas partie de l'Europe, comme vous savez, ferme aussi ses frontières. Le président américain réagit et dit « Je ferme nos frontières jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. » Le lendemain, les gens se réunissent dans les églises et prient que des chercheurs trouvent le remède. On entend le jour suivant à la radio que 2 femmes ont contracté la maladie à New York. Il semble que la maladie soit présente dans le monde entier maintenant. Les scientifiques continuent à chercher un antidote sans succès. Tout à coup, la nouvelle inespérée arrive. On a déchiffré le code ADN du virus et on peut enfin faire un antidote. Maintenant, il faut le sang de quelqu'un qui n'est pas encore été infecté par le virus. Et dans tous les pays, on demande à tout le monde de se rendre à l'hôpital pour faire un examen de sang. Tu vas, comme tout le monde, comme volontaire, à l'hôpital avec ta famille, tes voisins. Et tout le monde se demande, mais est-ce que c'est la fin du monde? Tout d'un coup, dans le couloir, le docteur sort et il crie le nom de ton enfant unique. Papa! Il écrit mon nom. Et avant que tu puisses réagir, ton enfant se lève et il court pour suivre le médecin. Attendez, tu dis. Le médecin revient. Tout va bien. Votre fils va bien. Son sang est pur. Il n'a pas été infecté par cette maladie. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Après 5 minutes, le médecin sort de la salle en riant et en pleurant. D'ailleurs, c'est la première fois depuis une semaine que tu vois quelqu'un qui rit. Le médecin s'approche de toi et te dit, « Monsieur, le sang de votre fils est parfait. Il peut faire l'antidote contre la maladie et sauver l'humanité entière. » La nouvelle se répand et tout le monde pleure de joie. Le docteur s'approche de toi et de ton épouse et dit, « Est-ce que je peux vous parler un instant ?»« Bien sûr, docteur. » Nous ne savions pas que le donneur serait un enfant. Donc nous avons besoin que vous signiez un accord pour qu'on puisse prendre de son sang. Tu lis le document et tu remarques qu'il n'est pas précisé la quantité de sang que le médecin va prendre. Alors tu dis, de façon tout à fait innocente et naïve, quelle quantité de sang allez-vous prendre, docteur? Eh bien, le docteur dit, sans sourire et d'un ton grave, malheureusement, monsieur, madame, nous avons besoin de prendre tout son sang. Tu n'arrives pas à croire ni à comprendre et tu essaies de répondre, mais, le docteur dit, mais monsieur, vous ne comprenez pas, il s'agit d'un remède pour le monde entier. Il ne s'agit pas d'une épidémie, mais d'une pandémie qui va anéantir la race humaine. S'il vous plaît, signez. Avez-vous vraiment besoin de tout le sang de mon fils? Est-ce qu'on ne peut pas faire une transfusion après? On te répond qu'il est le seul à avoir du sang. Vous allez signer? Oui. S'il vous plaît, signez. En silence et en tremblant devant toute l'équipe médicale, tu signes. Ton épouse aussi. Ton fils donne tout son sang. Il meurt. Quelques jours plus tard, c'est l'enterrement de ton fils. Tu constates que bien que le monde entier puisse vivre grâce à ton fils, tu constates qu'il n'y a presque personne qui vient à l'enterrement. Tu constates que certains font du sport ce jour-là, d'autres restent au lit, d'autres font le marché, d'autres regardent la télé, d'autres jouent en réseau de jeux informatiques. Très peu vient à l'enterrement de son fils. Pourtant, tous vivent grâce à lui. Mais on dirait que tout le monde s'en fiche. Tu reçois presque aucune carte de remerciement. Tu reçois presque aucun email de reconnaissance. Presque personne te téléphone pour te dire merci d'avoir donné ton fils. Tout le monde vit grâce à ton fils, mort pour eux. Mais très, très peu de personnes se sentent concernées. Tu as envie de crier, « Mon fils est mort pour vous, vous n'avez rien à faire, soyez reconnaissant !» Ça ne fait rien. Je me demande si le Seigneur n'a pas envie de nous secouer et de nous dire, « Mon fils est mort pour vous, vous ne faites rien. En êtes-vous reconnaissant? Il a versé de son sang pour vous. En êtes-vous reconnaissant? » Chers amis, ne laissons passer jamais, ou plutôt dire, ne laissons jamais passer 24 heures sans remercier le Père pour le don de son Fils. Sa mort était volontaire, substitutive, efficace, temporaire. Mais remercions le Seigneur tous les jours pour ce don merveilleux. Amen.
Je propose quelques instants de silence, de recueillement. Je pense qu'on en a tous besoin. Et puis je terminerai par une prière. Seigneur, lorsque tu as pris notre place, ma place sur cette croix, tu as souffert physiquement, psychologiquement, émotionnellement et surtout spirituellement. Merci pour ce sacrifice parfait. Merci pour la puissance qui en émane par ta résurrection. Et comme ça a été dit à nous, Seigneur, à être reconnaissant tous les jours et à vivre pour toi. Amen.